Et avec nous, Delphine Labbé et Monica Slanik. Slavik? J'ai changé de feuille, Monica. Votre nom de famille?
Slanik.
Slanik. Hein, vous deviez être tout de suite. Là, on a dit on va passer Delphine, puis finalement, j'avais plus la bonne feuille. Vous êtes toutes les deux du CRIR et on voulait aujourd'hui parler d'accessibilité en lien avec un centre commercial. C'est un endroit où on veut tous y aller, chacun pour ses raisons, mais que ce soit pour socialiser, que ce soit pour faire l'acquisition, ou simplement du lèche-vitrine. Et du côté de cette idée de développement stratégique multidisciplinaire, multisectoriel, on veut, avec la participation des propriétaires et de plusieurs organismes, Delphine, rendre et continuer de travailler à rendre Plaza Alexis-Néon accessible.
C'est exact.
Depuis combien de temps et dans combien de temps ce sera complètement accessible?
C'est une bonne question.
Depuis combien de temps on y travaille?
Le projet du laboratoire vivant au centre commercial a commencé en 2011. Des projets qui ont démarré à ce moment-là. Donc, ça fait maintenant 3 ans. Et le projet, on a eu des subventions. C'est un projet qui est subventionné par le Fonds de recherche en santé du Québec, avec des fonds spéciaux, comme vous avez dit, stratégiques innovants. Et c'est de 2011 à 2015, donc pour 4 ans. Nous sommes dans notre dernière année officielle du Living Lab, du laboratoire vivant. Et on a, si on demande quand est-ce que le centre commercial va être totalement accessible, il faut préciser que le centre commercial a accepté d'ouvrir ses portes à nos chercheurs, aux chercheurs du CRIR, pour venir réaliser leur projet et de ce fait devenir plus accessible aux personnes vivant avec différentes incapacités. Mais et en fait, c'est que le centre commercial avait besoin de rénovation.
L'occasion était bien choisie.
Exactement. Ouais. C'était un vieux centre commercial, date de 1967. Donc, on dit, ben pourquoi pas, en fait, profiter de cette occasion-là. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, plusieurs en partie à cause des recherches de nos chercheurs puis de nos projets de recherche dans le laboratoire vivant. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration, mais vraiment, en fait, en ce moment, il y a un projet qui cible à regarder le avant et après, qui avait fait l'évaluation de l'environnement avant les rénovations, puis actuellement est en train de faire l'évaluation de l'environnement après. Par une designer, une chercheure en design de l'Université de Montréal.
Est-ce qu'après 2015, les propriétaires se sont engagés à poursuivre la démarche parce que finalement, ils vont savoir, je présume, que vous allez vous laisser les plans et le chemin encore à parcourir et ils n'auraient qu'à poursuivre?
C'est certain qu'on va leur laisser, je pense. Ben, en fait, l'objectif, c'est que ça ne s'arrête pas en 2015. Mm-hmm. Les fonds arrêtent en 2015. Il y a certains projets qui vont encore avoir besoin d'aller au centre commercial, donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une poursuite, puis on peut pas... Et l'objectif du CRIR, c'est d'étendre maintenant à d'autres environnements ce principe-là, les recherches pour améliorer l'accessibilité. Je pense qu'à ce moment-là, les propriétaires d'Alexis-Néon, je vois pas pourquoi ils voudraient plus continuer à participer, parce qu'au niveau des recommandations, en fait, et de l'architecture, des changements architecturaux, c'est surtout une de nos designers qui s'est... impliqués dans leur rénovation, dans leur réunion d'équipe de rénovation. Et eux, ils ont presque terminé en ce moment. Ils ont mis le hold, en bon français, sur les rénovations d'une section qui va demander beaucoup de travail. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on va revenir avec eux quand ils seront rendus là. Mais là, ça faisait 2 ans qu'ils sont en rénovation, puis les locataires de Alexis-Néon veulent avoir une pause, la clientèle aussi, je pense.
Parlez-moi concrètement des réalisations jusqu'à maintenant et des projets en cours.
Donc, en fait, le laboratoire vivant, ça comprend environ une quarantaine de projets. Donc, il y en a qui sont au sein même du centre commercial, mais il y en a aussi, parce que c'est le CRIR, c'est un centre de recherche en réadaptation qui se passe dans les centres de réadaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif du laboratoire vivant, c'est la participation sociale, puis la réadaptation, c'est aussi son objectif. Donc, il y a certains projets qui sont en lien plus avec les cliniciens de la réadaptation, les programmes qui sont offerts, mais dans le but ultime qu'à la fin, la personne puisse se rendre au centre commercial. Donc, ceci étant dit, donc une quarantaine de projets, on en a qui testent des programmes de réadaptation, par exemple, un programme de thérapie par la danse, On a eu des programmes où les gens vont aider les personnes qui ont des traumatismes crâniens, qui vont aller à l'épicerie, savoir comme pour, sur les fonctions exécutives, comment planifier son budget, comment choisir son épicerie, pas se mettre à acheter, succomber à son impulsivité, par exemple, quand on a un TCC.
Ouais.
On a eu des études. En fait, c'est le laboratoire vivant a trois objectifs qui sont itératifs, mais le premier objectif, c'était l'identification des obstacles et des facilitateurs dans l'environnement. Puis ça, on a pas mal réalisé la plupart des études qui avaient à faire sur l'environnement du centre commercial. Donc, on a rencontré des commerçants, il y en a qui ont rencontré des adolescents, des familles d'enfants avec une incapacité. On a rencontré les cliniciens sur c'est quoi les obstacles facilitateurs à l'utilisation du centre commercial, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la pratique de la réadaptation. On a des gens qui ont développé une réalité virtuelle en reproduisant le centre Alexis Nion. Ça, c'est à l'hôpital juif de réadaptation. En fait, les gens qui vont s'entraîner s'entraînent dans une reproduction de Alexis Nion, puis on serait rendu à l'étape de dire, de comparer ceux qui se sont entraînés, est-ce que quand ils vont dans l'environnement réel, est-ce qu'ils sont meilleurs après?
Et quand vous dites s'entraîner, c'est quoi? C'est de circuler dans les corridors? C'est de...
Exactement. C'est souvent, en fait, ça, c'est des laboratoires qui travaillent beaucoup avec des gens qui ont eu des ACV, AVC.
AVC, oui.
Donc, en fait, oui, se réentraîner à marcher si on rencontre un obstacle ou se repérer dans les espaces. Il y a différents objectifs qui sont menés. Il y en a qui font même des études un peu plus fondamentales, si on veut, qui vont aller voir les zones du cerveau qui sont affectées quand on fait l'entraînement. Puis après, versus quand on va...
J'en conclue que c'est pas seulement de mettre des ascenseurs.
C'est ça, mettre du plâtre.
Dans le centre commercial.
Non, exactement. En fait, ça, c'est le résultat. Parce que le centre commercial, lui, par exemple, tous les les obstacles, puis facilitateurs identifiés, ça a été communiqué à Alexis Nion. Les chercheurs ont fait des rapports qui ont été transmis aux propriétaires d'Alexis Nion. Puis justement, l'ascenseur, c'est un bon exemple parce que toutes les recherches nous montraient qu'à Alexis Nion, les ascenseurs, on les trouvait pas, on les voyait pas. Il était petit, il était pas pratique et maintenant, il y en a un au milieu. Ça a été des grosses rénaux, c'était pas prévu. Maintenant, c'est en plein milieu. Il y en a d'autres, par exemple, qui disent que c'était dur de s'orienter, de trouver le kiosque d'accueil. Maintenant, le kiosque d'accueil est dans un endroit
visible,
central. Ouais. Plein de choses comme ça qui sont, je pense, qui étaient déjà dans les plans des propriétaires de l'Alexis Nion, mais qui ont été nourris par les différents résultats des projets.
Mais ça, c'est une bonne idée lorsqu'on est en rénovation de tâter le pouls de la clientèle.
Ah oui, tout à fait. Ouais. On s'appuyer sur les besoins, je pense que... Surtout au niveau de l'accessibilité universelle, dans le discours, c'est l'élément central. On ne peut pas faire d'aménagement sans savoir ce que les gens ont besoin.
En conversation avec Delphine Labbé, qui est chargée de projet au CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, les coûts de tout ça, est-ce qu'on arrive dans les budgets? Est-ce qu'on va être obligé de finir plus tôt? Est-ce qu'on a assez de sous pour faire tout ce qu'on pensait faire en 4 ans? On parle beaucoup d'argent ces temps-ci, là.
Oui, ben en fait, nous, on avait un budget établi, bon, qui a été... Il ne pouvait pas nous couper, par exemple. Non, il y avait un engagement sur cet argent-là, les fonds qui étaient versés. Donc, on essaie de bien les utiliser.
Actuellement, qui a signé votre contrat? Sûrement que les gens qui ont des fonds de retraite aimeraient bien avoir votre argent.
Mais je pense que c'est juste parce que ça dure 4 ans. mais non, donc ça, en fait, aussi, une chose, c'est que les sous, nous, c'est un projet structurant, innovant. Donc, idéalement, oui, on subventionne les projets de recherche. Tous les projets dont je vous ai parlé ont été subventionnés en partie par nous, mais souvent, ils faisaient les projets pilotes avec l'argent qu'on leur donnait. Puis après ça, ils allaient chercher d'autres sous dans d'autres moyens de subvention pour que ces projets-là continuent à vivre. Parce qu'on devait, ça, c'est une des façons dont l'argent était dépensé. On paie des bourses étudiantes aussi, on a donné des bourses à des étudiants. On fait du transfert de connaissances, on essaie de participer à différentes activités où on peut faire connaître les résultats de recherche.
Bon, Delphine, vous le mentionnez, en tout cas, moi, ça m'apparaît, bon, le laboratoire vivant le dit bien, c'est un laboratoire. Maintenant, on aimerait tous que notre centre commercial ou notre centre sportif ou communautaire près de chez nous ait cette ouverture-là. Mais est-ce que c'est réaliste? Maintenant que vous voyez là, tout ce que ça implique, à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir?
C'est une excellente question. Je me suis posé la question en justement ben, comme on est dans notre dernière année, on se pose beaucoup la question. Mm-hmm. Comme je vous ai dit, on veut aussi s'étendre à d'autres, peut-être d'autres milieux si c'était possible. Je pense que c'est sûr qu'une des choses au Québec, c'est la mise en place de politiques. On a la politique à part entière, mais on n'a pas de politique d'accessibilité, un peu comme celle dont l'Ontario, que l'Ontario s'est donnée maintenant depuis 2005, qui oblige un peu. On sait que c'est pas l'idéal, mais c'est une des choses qui peuvent aider. Parce que les normes, par exemple, actuellement du bâtiment sont minimales.
C'est ça. Et il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de programme d'aide et d'incitatif pour que les propriétaires disent oui, on va le faire.
Exactement. Nous, comme on disait, ça a bien à donner parce que Communard voulait faire les rénovations, donc on n'a pas forcé personne à les faire. Je pense que c'est sûr en termes de coûts, juste moi, on pense au coût personnel de ressources humaines parce que. Ben, moi, j'ai le poste maintenant depuis un an et quelques. Il y avait quelqu'un avant moi qui a tenu le fort pendant... Puis il y a les deux directrices scientifiques, Eva Kehaya et Bonnie Swain, qui travaillent très fort, qui sont extrêmement disponibles. Il y a les gens de Communard, surtout Lorraine Leblanc, la directrice adjointe, qui est disponible avec nous. Puis les chercheurs, on a un comité exécutif. Ces chercheurs-là ont un salaire qui vient des universités, donc ça leur permet de donner de leur temps sans que ça soit une dépense. Mais c'est des ressources humaines qui sont... on essaie de développer, puis je sais que c'est quelque chose qui des lignes directrices, j'ai juste le mot qui me vient en anglais, là, des guidelines, des guides de pratique, des recommandations. À Lucie Bruno, on fait des répertoires de lieux accessibles, puis je pense qu'en encourageant...
D'ailleurs, les 6 centres de réadaptation sont impliqués là-dedans.
Oui, exactement.
Maintenant, en terminant, est-ce qu'on peut transférer des connaissances recueillies dans ce contexte-là ailleurs, un peu comme ce que l'on fait en course automobile ou dans les dépenses faramineuses de l'espace, ou est-ce que ça peut être utile dans d'autres circonstances que l'on ne prévoyait pas peut-être?
Oui, je pense totalement. Qu'on prévoyait pas, parce que je pense qu'on a, on a toujours eu l'objectif dans le projet que ces connaissances-là puissent s'appliquer à d'autres environnements. C'est sûr que c'est aussi de la recherche. Donc, il y a beaucoup du transfert ou du partage des connaissances actuellement, que c'est des publications scientifiques, c'est de la recherche. Donc, ça nourrit le monde de la recherche et les autres chercheurs qui voudraient... Je pense qu'aussi, on travaille avec beaucoup d'organismes, on participe avec eux. Il y a des chercheurs maintenant qui ont développé des liens puis qui vont continuer sur d'autres sortes de projets avec eux.
Parce que j'ai peur que ça reste sur des tablettes. J'ai peur que finalement, il y ait des chercheurs qui profitent de cette expérience-là puis qui, dans les 5 à 7, disent « Wow, c'est vraiment intéressant », mais qu'en bout de ligne, mis à part peut-être l'ascenseur plus central, qu'il ne reste pas grand-chose. Est-ce que c'est une crainte partagée?
Oui, je pense que oui. On a ce souci-là, c'est certain, dans le laboratoire. Mais par exemple, on a commencé, ce qu'on n'a pas encore fait dans les années précédentes, ou en tout cas qu'on a commencé tranquillement à faire, c'est la sensibilisation davantage. On essaie de plus être... Par exemple, dernièrement, on a formé des commerçants d'Alexignon. C'est Altergo qui a offert sa formation. Nous, on est des chercheurs qui évaluaient la formation d'Altergo, donc c'est un petit échange. Puis on se dit, ces commerçants-là qui ont reçu la formation, là, on vient de donner le bagage à quelques commerçants. Est-ce qu'ils vont travailler ailleurs, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont avoir acquis? C'est une façon de faire.
De toute façon, souvent, si c'est une chaîne, le proprio peut peut-être dire, mon magasin de Fairview pourrait peut-être bénéficier d'une formation comme celle-là. Ou,
exactement,
Ça devrait faire des petits si les gens sont ouverts comme on l'espère. Monica Slanik, vous aussi, vous êtes chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Moi, ce qui m'intéressait, et semble-t-il que c'est à vous que je dois poser ces questions-là, c'est y a-t-il à Montréal ou au Québec des endroits, que ce soit un centre commercial, que ce soit un terrain de jeu, que ce soit un centre communautaire, où les jeunes peuvent jouer, et semble-t-il que ça fait partie des tentatives du côté d'Alexinéon, entre autres. C'est ce que je comprends. Est-ce que j'ai tort?
Alors, tu me demandes s'il y a des aires de jeu dans les centres commerciaux qui sont accessibles.
Disons, à tout le moins, là, puisqu'on est à Plaza Alexinéon, est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce que ça fait partie des adaptations?
Non, il n'y a pas maintenant.
Ah, ça, c'est étonnant. Compte tenu de tout ce qui a été fait? Là.
Non, non, il n'y a pas un aire de jeu maintenant, mais oui, c'est vrai, on a proposé l'idée d'une parc accessible et en plus, une parc intergénérationnelle.
OK. Bon, ben, on y revient. Je vous arrête tout de suite. Mais on y revient. On a mis la table. On écoute The Beatles pour un petit peu moins de 2 minutes. Je prends une petite gorgée de café, puis on revient avec Monica.